Говорит Москва.
We're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But they, it was protocol. They said, please, sir, because they didn't know there was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly.
Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit, donc il y a toujours le podcast mensuel le 15 du mois, et chaque fois que l'actualité l'exige, surtout si c'est le dimanche soir. Alors, vous l'avez compris, celui qui parle, vous l'avez reconnu, c'est Donald, et c'est pas un canard, c'est un lion, puisqu'il a dit « I fought like hell to stay », c'est-à-dire « je me suis battu » comme un lion, on traduirait en français, pour rester. Mais bon, voilà, le protocole m'a dit « Non, vous pouvez pas rester, on est en train de prendre des mesures, etc. On est en train de voir ce qui se passe, c'est trop dangereux. » Donc finalement, le dîner de gala de la presse a été annulé. Et bien entendu, chaque fois qu'il se passe quelque chose au sujet de Donald Trump, j'ai envie de dire quelque chose d'intéressant, ce qui est somme toute assez rare, mais ça reste quand même... le dirigeant, le président des États-Unis, et ça compte dans la géopolitique mondiale. Alors, je vais faire un podcast qui ne sera pas très long, simplement pour essayer de décrypter un peu ce qui s'est passé et surtout d'en faire une analyse. Alors, ça reste mon analyse. Elle est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, il se passe des choses anormales autour du cas Trump. Trump, c'est au moins le troisième attentat auquel il échappe. Il y en a un, c'était pendant la campagne, vous vous en souvenez tous, c'était le 13 juillet 2024, où là, il a vraiment échappé miraculeusement, vraiment de justesse. Il a échappé à un attentat qui a fait, du reste, un mort et plusieurs blessés. Alors, là, effectivement, très franchement, j'ai du mal à croire que c'est un véritable attentat. Alors tout de suite, évidemment, donc chacun y est allé de sa petite analyse, c'est-à-dire, et moi, je n'en sais pas plus que les autres. Cependant, l'analyse, j'ai la mienne, et elle reste ce qu'elle a toujours été, et j'ai envie de dire que ce qui s'est passé hier soir au Hilton, de Washington, eh bien, me conforte dans l'analyse que j'ai depuis le début de la présidence de Trump, c'est-à-dire que Trump est sous emprise. Il faut bien comprendre. Pendant la campagne, Trump n'a pas été ménagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a gagné les élections haut la main. Il est en train de faire radicalement l'opposé de ce qu'il avait promis, c'est-à-dire sortir les États-Unis des bourbiers mondiaux dans lesquels ils se sont mis au cours des décennies précédentes. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que en ouvrant un nouveau front avec dans le Golfe Persique, eh bien, non seulement il a mis les États-Unis dans un nouveau bourbier, mais encore, il y a mis ses alliés les plus sûrs, c'est-à-dire les pétromonarchies du Golfe. Aujourd'hui, les pétromonarchies du Golfe sont en première ligne. C'est jamais les États-Unis qui sont au front. Les États-Unis, ils viennent de loin. Et vous savez, c'est un peu comme ces gamins à la récré qui allaient casser la gueule aux plus petits et après qui se tiraient le plus loin possible à l'opposé dans le fond de la cour. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc les États-Unis ont une grande flaque d'eau qui les protège. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas le cas pour les pétromonarchies dont ils sont les alliés. Avec un allié comme ça, puisque, on peut parler d'alliance, moi je parlerai surtout d'exploitation. Mais peu importe, en tout cas tout le monde a l'air d'y trouver son compte. jusqu'à ce que Trump et les Israéliens apportent, si j'ose dire, le chaos dans la région. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un peu sauf qui peut, il n'y a plus d'alliés du tout et les monarchies du Golfe sont en très grande difficulté parce que les États-Unis ne pourront pas toujours défendre tout le monde. Peu importe. Enfin, peu importe. Disons que c'est pas exactement le sujet. Le sujet, qu'est-ce que c'est ? Le sujet, c'est que mon analyse, et ce sera l'objet principal de ce podcast, eh bien, elle est très simple. C'est que, comme je l'ai dit depuis le début, Donald Trump est sous emprise. Israël est un État véritablement mafieux, c'est un État terroriste. Il a été fondé par le terrorisme, par la force, il s'est fondé sur le terrorisme, et cet État mafieux, cet État terroriste, avec à sa tête Benjamin Netanyahou, eh bien, est allé voir Trump dès le début en lui disant « Ok, tu as gagné, très bien, tu as gagné l'élection, mais il n'en reste pas moins que tu vas devoir obéir. » Et pour ce faire, il lui a, pour être bien sûr qu'il plaisantait pas, et pour bien montrer à Trump surtout qu'il plaisantait pas, il lui a offert deux beepers en or, les analogues à ceux qui avaient été piégés et ensuite qui avaient coûté la vie à un certain nombre de dirigeants des groupes arabes, que ce soit Hezbollah et autres. Donc, c'est un peu comme si on vous disait maintenant, soit tu obéis, et puis on vous donne une balle de revolver, et vous dites, bon, la prochaine, c'est pas dans un paquet cadeau que tu vas le recevoir, mais c'est dans la tête. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est sous cette emprise-là que Trump se trouve, puisque Trump, aujourd'hui, selon moi, n'a pas le choix. Or, il se trouve que Trump aimerait bien sortir le plus vite possible de ce bourbier-là. Bourbier qu'il a, avec ses bons amis israéliens, bourbier qu'il a lui-même créé. Il aimerait bien sortir de ce bourbier-là. Simplement, en Israël, on ne l'entend pas de cette oreille. Les Israéliens aimeraient que ça continue en Iran. Ils rêvent d'écraser l'Iran sous les bombes. Simplement pour cela, ils ont besoin des États-Unis. Or, ces derniers temps, Trump est devenu un tout petit peu mollasson, c'est-à-dire que bon, le cessez-le-feu, ben on va quand même continuer. Non, mais on va pas frapper tout de suite. Bon, il faut dire que ça s'est quand même assez mal passé parce que l'Iran a fait preuve d'une résilience assez inattendue. Ben, inattendue, pas pour tout le monde. Des gens au Pentagone avaient dit c'est une folie. Si on fait ça, on va au devant de graves problèmes. Aujourd'hui, l'armée américaine n'est pas en très bon état, malgré les sommes considérables qui sont dépensées sur le budget de l'État. Eh bien, les choses ne vont pas bien. Les cadres de l'armée ne vont pas bien. Il y a des problèmes de production d'armement. Et Israël est un ami, un allié, un maître, si j'ose dire, assez exigeant. Et à mon avis, c'est un coup de pression. Alors, je ne pense pas que les Israéliens ont eu l'intention de tuer Trump, assassiner le président des États-Unis. Ça aurait généré, je pense, une vague d'antisémitisme assez conséquente aux États-Unis, et beaucoup de gens n'y ont pas intérêt, et notamment beaucoup de gens de la communauté juive n'y ont pas intérêt. Pourquoi je dis ça ? Parce que si les Israéliens avaient eu le dessein de tuer Trump, cette fois, je pense qu'il l'aurait pas raté. Le Mossad ne rate pas ses coups. C'est ma femme qui me faisait remarquer ça ce matin. Elle me dit « Non, ça peut pas être le Mossad, puisque le Mossad, ils auraient réussi. » Alors, je pense que si, ça peut être le Mossad. Mais simplement, l'idée, c'est un coup de pression, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé un tocard qui Bien entendu, c'est fait prendre. Il y a eu des échanges de tirs, mais je ne pense pas que si les Israéliens avaient eu, je le répète, hein, le dessein de tuer Trump et l'intention de tuer Trump, ils auraient cette fois raté leur coup, puisque le 13 juillet, ils ont vraiment failli réussir. Mais c'est un coup de pression pour dire, voilà, maintenant, il faut continuer les frappes, il faut... Non, on est engagé et on n'en sort pas. Les Israéliens ne peuvent pas se battre tout seuls, parce que, là aussi, ils ont beaucoup de fronts ouverts, ils sont entourés d'ennemis, on peut le comprendre, hein, vu la manière dont ils traitent leurs voisins, on peut comprendre que certains voisins soient un petit peu énervés. Bon, on connaît le génocide en cours à Gaza, ils s'apprêtent à coloniser le Sud-Liban. Vous savez, le Sud-Liban, quand ils disent aux gens « évacuez », c'est un peu comme si on vous disait « voilà, vous ne revenez plus chez vous, on va tout faire sauter ». Hein, c'est une guerre terroriste. Alors ça rentre dans tous les cadres juridiques et judiciaires internationaux. Hein, ça relève du crime de guerre, du crime contre la paix et accessoirement du crime contre l'humanité. Par conséquent, je crois que les Israéliens ont un besoin vital des États-Unis et de la force de frappe américaine, peu importe l'état dans lequel elle est, et peu importe ce qu'il en coûte aux États-Unis, ça, les Israéliens n'en ont que faire. Et Trump, lui, n'en a pas que faire, parce que d'abord, il a pris des mesures en radicale opposition avec ce qui avait été défendu pendant la campagne, parce que les Américains en ont marre, les Américains en ont assez, parce que pendant que les États-Unis font des dépenses absolument faramineuses pour faire la guerre, eh bien malheureusement ils n'ont pas de à l'intérieur, les infrastructures sont à la rue, il y a de véritables problèmes. Et tout ça n'amène pas la prospérité, ou plus exactement, elle amène la prospérité, mais pas à qui on voudrait, certainement pas à la population. Parce que bien entendu, il y a des gens qui prospèrent beaucoup sur cette guerre, hein. Il y a des délits d'initiés. Je vous prie de croire que le jour où il y aura un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz, il y aura des gens qui seront prévenus à l'avance et qui pourront faire les opérations bancaires et boursières pour gagner de l'argent. Ça, c'est toujours fait et ça continuera de se faire. C'est véritablement une manière de gouverner qui est totalement mafieuse, ça relève du crime organisé, ni plus ni moins. Et donc aujourd'hui, les Israéliens veulent que ça continue en Iran. Ils sont prêts. Alors le sacrifice de l'Iran ne les dérange absolument pas. Aucun sacrifice d'ailleurs ne les dérange. Y compris d'ailleurs le sacrifice de leur propre population israélienne, hein. C'est-à-dire que on l'a vu au moment du vaccin, ils n'ont pas hésité à faire des expériences vaccinales sur leur propre population, etc. Tout ça ne leur pose pas de problème. C'est une poignée. Les dirigeants israéliens sont une poignée de voyous et ils ne sont pas à ça près. Par conséquent, ce qui s'est passé hier soir est très simple et j'en terminerai ici. Ce qui s'est passé hier soir est, à mon avis, assez simple. Une fois encore, ça reste mon analyse, confortée par ce qui s'est passé avant, mais simplement, on a mis un coup de pression à Trump en disant « voilà, il va vraiment falloir que ça continue en Iran et les décisions ». C'est pas toi qui les prends, c'est nous qui les prenons. Je ne sais plus quel dirigeant israélien disait ce n'est pas les États-Unis qui décident de la politique étrangère d'Israël, c'est Israël qui décide de la politique étrangère des États-Unis et pas qu'étrangère d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. C'est pour ça que ce podcast est extrêmement bref et extrêmement court. L'avenir va nous, l'avenir nous dira évidemment si cette analyse est juste. Et je crois qu'on n'aura pas très très longtemps à attendre. Je pense que si il y a dans les prochains jours ou les prochaines semaines de nouvelles frappes sur l'Iran ou un durcissement de la position des États-Unis, qui pour l'instant essaie de louvoyer, hein. Trump, oui, on bloque le détroit, mais en même temps on essaie de, on donne encore 3 semaines, on va bien voir. Bon. Les déclarations de Trump, je crois qu'il faut plus trop les écouter parce que Trump fait. Je pense d'ailleurs que ces déclarations qui font que les gens prennent Trump pour un fou sont une stratégie. Alors, j'irai pas jusqu'à ce que dit Alexis Cosette. Ma théorie est un petit peu différente, mais c'est une stratégie pour essayer de gagner du temps et pour essayer de louvoyer et pour essayer de retenir un petit peu les ardeurs des Israéliens. Mais si la position de Trump se durcit, eh bien, je crois qu'on n'aura absolument aucun mal à lier les événements à ce qui s'est passé ce samedi 25 avril à Washington. Par conséquent, eh bien, il ne reste qu'à attendre et voir. C'est pour ça que ce podcast n'est pas très long. Il ne reste qu'à attendre et à voir. Mais évidemment, les perspectives sont quand même assez sombres. Voyons si Trump a les moyens de tenir. Moi, très franchement, je pense que le mandat, les 2 années qui restent à tirer pour Donald Trump à la Maison Blanche vont être très 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 longues. Il va être extrêmement difficile au président Trump de se maintenir dans ces conditions. Mais comme je l'ai dit, attendons et nous verrons. Voilà, eh bien c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Mais je tenais à réagir, comme j'ai l'habitude de le faire le dimanche quand l'actualité l'exige, eh bien je le fais sous forme, non pas sous forme d'article, mais sous forme de podcast. Et puis, eh bien pour le reste, nous verrons bien, mais je crois qu'on sera fixé assez vite. Je vous remercie, n'hésitez pas, bien sûr, à relayer ce podcast, à le partager, pas en morceaux, hein, simplement le faire connaître à vos amis, à vos réseaux sociaux. C'est la seule récompense la seule manière que vous avez, bien entendu également par les commentaires, mais que vous avez de témoigner que vous appréciez ce travail. Et je vous remercie encore de votre fidélité. Moi, dans tous les cas, je vous retrouve pour un podcast qui promet d'être très intéressant le 15 mai prochain. Bien sûr, en attendant, si l'actualité l'exigeait, il y aurait évidemment d'autres podcasts plus brefs. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très vite, et puis, eh bien, moi, il ne reste qu'à vous saluer. Alors, salut !